Voilà, le culte va démarrer. Je vous invite à prendre place. N'entends pas, c'est bien. C'est bon, hein? Ok. Alors, bonjour à chacun. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour ce culte. J'accueille aussi ceux qui nous suivent en streaming. Qu'ils soient les bienvenus aussi, que chacun se sente accueilli d'abord par le Seigneur pour vivre ce temps de culte ici ce matin. Alors je remercie tous ceux qui se sont engagés ce matin, dont certains au pied levé pour divers services, hein, comme l'accueil, évidemment, la préparation des locaux. Hein, il y a ceux qui viennent nettoyer aussi la semaine. Il y a l'équipe technique là, avec la sono et le streaming, c'est pas toujours facile. Il y a des moniteurs qui s'occupent des enfants, alors je crois qu'aujourd'hui c'est un peu décentralisé, mais Philippe vous en parlera tout à l'heure. Et puis les musiciens aussi, qu'on a un peu de peine à trouver ces temps, mais on en a trouvé. Donc aujourd'hui il y aura donc un moment de louange qui va suivre, ensuite Célina apportera la prédication. Et puis, on aura quelques annonces et la bénédiction. Alors, pour démarrer le temps de louange aujourd'hui, je vous invite à tirer notre louange de la méditation du psaume 145, un psaume auquel Célina fera sans doute aussi référence dans la prédication. Donc, le psaume 145. Alors accrochez-vous, ça commence assez fort. C'est moi qui fais ce bruit-là. Ouais. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Waouh, quelle entrée en matière, hein. Le psalmiste, on dirait, il est au taquet. Alors la suite nous concerne tous très directement. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. Alors, grand, réalisateur d'exploits, majestueux, d'une force redoutable, bon et juste. Rien moins que ça. Voilà le Dieu que nous voulons louer ce matin. Alors, à l'image du psalmiste, je vous invite à méditer d'abord quelques instants sur les prodiges que Dieu a faits dans votre vie. Puis ensuite, je pense que nous pourrons tous chanter « Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Ton amour infini nous confond. » Alors méditons quelques instants avant de chanter.
Viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand.
Vous pouvez vous rasseoir, puis on se relèvera pour chanter. Au verset 8, le psaume continue ainsi. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Cette définition de Dieu, c'est celle que Dieu donne de lui-même. Et dans quel texte? Je pense que vous en souvenez peut-être. C'est dans l'Exode, juste après l'épisode du veau d'or, d'ailleurs. Et donc, juste après cet épisode, suite à l'intercession de Moïse pour le peuple, Moïse taille deux nouvelles tablettes, et puis il remonte sur le Sinaï à la rencontre de Dieu. Et donc, au début d'Exode 34, on lit, « L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là, près de lui, Moïse, et proclama son nom. » Il passa devant Moïse en proclamant « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce. » Excuse-moi. « L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché. » Mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième, voire la quatrième, la génération. Donc c'est Dieu qui se présente tel quel après l'épisode du veau d'or. Faut y penser quand même. Alors le chant qui suit, il nous rappelle ces caractéristiques de Dieu. Il nous invite à la louange quotidienne, dans toutes les étapes de notre vie. Et puis il s'adresse donc aussi à toutes les générations. Bénis Dieu, ô mon âme.
Et ton cœur est bon, je n'ai cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Béni Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint Nom. Jamais, ô mon âme, rends gloire à son Saint Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes son Saint Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint Nom. Rends gloire à son Saint Nom.
Le psaume continue de rappeler les caractéristiques de Dieu et plusieurs de ces rappels commencent par l'affirmation « L'Éternel est ». Au verset 13, « Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. » 14, « L'Éternel est le soutien de ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. » Verset 17, « L'Éternel est juste dans tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. » Verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et au verset 20, « L'Éternel garde, où est celui qui garde tous ceux qui l'aiment ?» Mais il détruira tous les méchants. Alors, voilà, sur la base de ce qu'on a vu jusque-là, bon, j'avais prévu un chant, mais on ne le connaît pas trop, donc je vous propose simplement de prendre un petit temps de prière, puis ceux qui veulent s'exprimer, exprimer leur louange à Dieu par la prière, ben, faites-le. Alors, il y a un micro sans fil, peut-être si vous arrivez à lever la main, puis que comme ça, ceux qui sont en streaming puissent partager avec nous, ce serait bien. J'ai oublié de demander à quelqu'un, mais merci Roxane. Voilà. Donc levez la main, puis Roxane passera, si vous voulez prier.
Oui, Seigneur, il est bon de tourner nos regards vers toi, car tu es un Dieu bon, plein de bienveillance. Ton amour, Seigneur, nous dépasse complètement, nous surprend, nous étonne tellement nous sommes peu disposés à ton écoute. Dès le matin, Seigneur, tu nous réveilles et tu nous fais entendre ta voix. C'est toi qui préside à notre journée. C'est toi qui nous accueille et nous acceptons, Seigneur, tes bras tendus vers nous dans ta miséricorde et ta bienveillance, ta force qui nous renouvelle, qui fait de nous des cœurs de chair rempli de ta louange par Jésus. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, nous voulons redire ta souveraineté sur nos vies. Et c'est vrai, Seigneur, que même si les forces nous abandonnent, même si on tend vers la fin, Seigneur, toi, tu nous accueilles. Et c'est vrai que cette bienveillance, Seigneur, merci parce qu'elle transpire de ta personne. Et Seigneur, nous pouvons nous en accaparer, Seigneur, prendre cette bienveillance et la transmettre autour de nous. Et Seigneur, aussi, j'aimerais te remettre notre Église, Seigneur, de sentir aussi cette bienveillance, Seigneur, ta bienveillance, ta personne au milieu de nous. Et Seigneur, c'est une richesse, Seigneur, que nous voulons partager. Alors Seigneur Jésus, merci pour ce don. Merci pour nous rejoindre là où nous sommes, suivant notre âge, Seigneur, quelque chose, ça n'a pas d'importance. Mais Seigneur, tu es bienveillant et nous voulons transmettre cette bienveillance autour de nous. Amen.
Le psaume termine au verset 21 de la manière suivante. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Nous avons reçu des générations qui nous précèdent. À nous maintenant de dire et transmettre cet héritage aux générations qui nous suivent. Et la louange à Dieu fait partie de cet héritage, entre autres. Alors nous pouvons encore louer Dieu avec ce dernier chant, Hosanna.
Tenons-nous debout. Vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante. Hosanna. Hosanna toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna toi, Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Cœur et rends-le pur. Ouvre Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta peine. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur.
Bonjour à chacun. Vous allez bien? Ouais, c'est cool. Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Bonjour, coucou à tout le monde chez vous. Ce matin, je vous propose d'ouvrir l'album de famille de Jésus et de nous attarder sur deux photos. Alors, à vous d'utiliser votre imagination pour créer votre propre cliché de ces deux événements. Ces deux photos représente deux moments de l'enfance de Jésus. Une, lorsqu'il n'était encore qu'un nourrisson, et l'autre, à la fin de son enfance, lorsqu'il a fait ses premiers pas dans sa vie d'homme. Ces deux événements se passent dans une des cours du temple, et cela peut déjà vous aider à vous créer le décor. Prenons le premier moment. Et je vais lire dans Luc 2, les versets 21 à 40. Le huitième jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, comme l'avait indiqué l'ange avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu, et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui. Il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tout le peuple. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, et il mettra aussi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénouël, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se développait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Les cris du bébé résonnaient dans la cour du temple. Ce nourrisson d'à peine une semaine entre dans l'immense édifice pour y être présenté à la communauté du monde. Il a passé ses 8 premiers jours anonyme, sans prénom. Mais le 8e jour, c'est la Brit Mila, signifiant l'alliance de la coupure. C'est la cérémonie de la circoncision. Il s'agit de l'inscription dans la chair d'un signe rappelant l'alliance de Dieu et de son peuple. Et c'est à ce moment que, dans la tradition juive, le nom de l'enfant est annoncé au monde pour la première fois. Celui-ci se nomme Yeshua ou Jésus, nom qui signifie « Dieu est sauveur ». Dieu est sauveur. Et ce n'est pas rien. Sans doute que beaucoup de bébés devaient porter ce nom de Jésus à l'époque de Jésus. C'est comme dans notre monde, beaucoup d'hommes portent le nom de Philippe. Salut Philippe Cornuche, j'ai vu que tu étais par là. Salut. Pour chaque cérémonie de circoncision, une question se pose sans être explicitement posée. Et c'est encore quelque chose qui se vit aujourd'hui pour les Juifs. Cet enfant serait-il le Messie? Pour Jésus de Nazareth, fils de Marie et de Joseph, qu'est-ce qui le distingue des autres Jésus? C'est Siméon et Anne qui vont le reconnaître en premier. Dans le temple de Jérusalem, ce sont des illustres figures. Siméon est un prêtre très âgé. Des bénédictions d'enfants, il en a sans doute pratiqué des milliers. Et Anne, c'est une femme de 84 ans dont la foi vibrante éclaire l'espérance de ceux qui fréquentent le temple. Anne et Siméon, 2 anciens du temple qui, au cours de leur vie, ont dû voir se dérouler toutes sortes d'événements qui ont forgé leur foi en Dieu et en ses promesses. Leur vie durant, ils ont prié, ils ont œuvré. Ils ont travaillé dur pour solidifier et maintenir leur propre foi. Et ils ont consacré toute leur existence au service du temple pour transmettre l'art de la confiance en Dieu dans un monde chaotique. Car oui, la foi en Dieu, c'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose qui s'affirme et c'est quelque chose qui s'affine avec le temps. Car il fallait sans doute avoir une foi très affûtée par la vie, par l'expérience de la vie et ses épreuves, pour reconnaître dans ce nourrisson, qu'est-ce que Siméon dit déjà ? Ah ouais, j'ai vu de mes propres yeux ton salut, c'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Il faut une foi très affûtée pour voir au-delà des apparences et y reconnaître l'œuvre du Seigneur. Anne et Siméon ont tenu ferme dans l'espérance qu'un jour Dieu viendra pour sauver le monde. Et à leur âge très avancé, ils en ont été les témoins privilégiés. Devant un bébé de quelques jours, porteur de l'annonce que Dieu est encore et toujours le sauveur. Pour Anne et Siméon, c'est un privilège. Car quel privilège de voir qu'à la fin de notre vie, c'est la vie qu'on laisse derrière. l'œuvre d'une vie qui mène à la vie. Je pense que c'est aussi le cas pour ce qu'il se passe ici à Mérin. L'œuvre de 60 ans de vie, de rencontres, de croissances, d'expériences de toutes sortes, et de voir que dimanche après dimanche, semaine après semaine, la vie continue, avec les hauts et les bas, c'est vrai, mais elle continue. Parce que, premièrement, c'est le Seigneur qui y veille. Mais aussi parce que tant de personnes au fil des années ont permis que ce lieu, que cette communauté puisse entretenir la flamme de l'Évangile pour qu'elle puisse continuer de réchauffer les cœurs de ceux et de celles qui en ont besoin. Des enfants, des jeunes, des familles, des adultes, des retraités, des gens qui arrivent petit à petit au bout de leurs derniers jours, continuent d'apporter la vie de cette communauté de Mérin Village. La foi est un don qui se transmet et qui se travaille. Quand je pars à votre rencontre, je pense que Philippe c'est pareil, lorsqu'on fait des visites, en tout cas moi c'est ce que je reçois en premier, l'histoire de votre foi, comment elle vous façonne et la manière dont vous façonnez votre foi dans votre existence. C'est une force que vous transmettez à tout le monde. Et c'est ce qui permet que quelque chose de force de fort qui nous dépasse, continue de solidement nous tenir. Alors merci pour ce témoignage qui permet d'apprendre à placer notre regard et notre confiance en Dieu, comme le disait le psaume 145 dont a parlé Jean-Christophe tout à l'heure. Le privilège de l'expérience de la vie permet aux plus jeunes d'avoir des exemples de vie accomplis, de s'accrocher à la vie et de mettre tout en œuvre pour faire de notre mieux. Mais le privilège de l'expérience, c'est aussi d'être déjà passé par les épreuves les plus douloureuses, d'avoir compris qu'on ne maîtrise pas les événements et les circonstances et que dans la vie, on peut connaître bien des souffrances. Parfois, cela arrive sans qu'on s'y attende, mais quand on est averti, on peut tenter, peut-être, de s'y préparer pour ne pas sombrer. Siméon va donner cet avertissement à Marie. Oui, son enfant est unique et il va briller dans ce monde comme aucun autre homme. Mais cela aura des conséquences graves. L'âme de Marie sera transpercée comme une épée, comme avec une épée. C'est une coupure nette. En cette cérémonie de la circoncision et de la présentation, cette célébration de la coupure, c'est le début de la séparation entre la mère et son enfant. Une première qui, pour bien des mères, ne laisse pas le cœur tranquille. Une longue bataille avec l'angoisse maternelle s'engage alors. La relation entre Jésus et Marie va connaître bien des coupures. C'est une première coupure ici. D'autres suivront. Celle du récit que Jean-Christophe nous lira après, et jusqu'à l'ultime coupure au pied de la croix. La vie humaine est inexorablement faite de coupures. On ne peut pas y échapper. Mais on peut s'y préparer, sans doute. Enfin, je l'espère. Durant cette cérémonie de la Brit Mila, on prie pour que l'enfant grandisse en sagesse et en force pour atteindre l'âge de l'homme. Qu'il puisse à son tour lire la Torah et faire le bien. Jésus grandira et se développera en sagesse et sous la faveur de Dieu, nous dit le texte. Jésus atteindra l'âge de l'homme et il ne s'attardera pas à rester un enfant. L'adulte a du pain sur la planche et il va vite le faire savoir.
Alors je lis la suite de Luc 2, les versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en cherchant parmi leurs parents et connaissances, tout en le cherchant parmi eux. Mais ils ne le trouvèrent pas, et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Douze ans ont passé. Des cris résonnent toujours dans le temple, mais cette fois-ci, ce n'est plus ceux du pleur du bébé, de Jésus bébé. Les cris que nous entendons, ce sont des « Jésus, Jésus, mais bon sang, où es-tu passé ?» Et oui, ce sont les cris effrayés et en colère des parents de Jésus. Car Jésus a disparu depuis 3 jours. Comme chaque année, c'était le rituel, monter à Jérusalem en famille pour célébrer Pessah, la Pâque juive. Des milliers de pèlerins s'agglutinaient là. Mais jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de problème. Jésus était toujours resté fermement attaché à sa famille, à ses amis de Nazareth qui voyageaient avec eux. Mais cette fois-là, c'était différent. La fête de Pâques était comme d'habitude très mouvementée. Joseph et Marie étaient sans doute très heureux de retrouver la tranquillité de Nazareth. Les pèlerins voyageaient en caravane de centaines de personnes. Chacun veillait les uns sur les autres. Donc, n'allons pas trop vite en traitant Joseph et Marie de mauvais parents pour avoir mis un jour à se rendre compte que leur fils ne faisait pas partie du voyage de retour. Donc voilà, les parents de Jésus faire demi-tour pour Jérusalem à la recherche de leur fils fugueur. Le comportement de Jésus est incompréhensible. Quelle mouche l'a piqué ? Bien des parents d'ados se reconnaîtront dans cette situation. Et oui, même Joseph et Marie ont posé cette fameuse grande question que tout parent pose un jour à leur ado. Cette question, mais pourquoi as-tu fait cela ? Jésus avait 12 ans, c'est tout, et le voilà devenu un homme. Il est devenu bar mitzvah, car avant d'être une fête, bar mitzvah, c'est un statut, comme un statut juridique. Cela veut dire littéralement « fils du commandement ». L'individu devient lui-même héritier des commandements. Il a acquis la capacité de discernement, de faire ses propres choix et d'agir en conséquence, et aussi d'en assumer les répercussions. Jésus est bar mitzvah, il est devenu adulte. Il n'est plus le petit garçon attendrissant de Joseph et Marie, mais que comme tous parents, ils auraient bien voulu que parfois le temps ralentisse. Les enfants grandissent bien trop vite. Un passage important dans la vie de cette famille se passe ici, dans ces quelques lignes. Une coupure inévitable, comme je le disais avant. Ce genre de coupure qu'on ne peut pas empêcher, qu'on doit accepter pour que ça se passe au mieux. Celle de laisser aller celui ou celle qui était encore hier qu'un enfant. Il y a quelque chose d'effrayant à faire confiance. Le passage de l'enfant à l'âge adulte a quelque chose d'effrayant pour les parents. on perd littéralement la maîtrise. Les parents ne jouent plus les maîtres ou les tuteurs de leur enfant. Ils remettent cette fonction aux jeunes adultes qu'ils ont devant eux. C'est un travail de lâcher prise et de prendre confiance. Pourtant, dans le cas de Jésus, il y a de quoi avoir confiance. Marie et Joseph retrouvent leur fils à l'intérieur du temple. Ils ne le retrouvent pas en boîte de nuit. Jésus est fermement attaché à ce qu'il a reçu dans son enfance. Seulement, désormais, c'est à lui d'en faire quelque chose, d'amener plus loin l'histoire dans laquelle il est ancré. Il ne peut pas rester attaché au giron de son père ou de sa mère, car s'il est bien attaché à ses parents, c'est aussi qu'il est héritier du Père céleste. Ce qu'il a à accomplir, lui seul peut l'accomplir. Le chemin de la croix, c'est son chemin. Et malheureusement, ni Marie, ni Joseph ne pourront le faire à sa place. Mais avant la croix, Jésus doit s'occuper des affaires de son Père, comme il l'annonce fièrement à ses parents. Être dans le temple et discuter avec les maîtres de la loi, c'est impressionnant. Et Jésus ne se laisse pas démonter. Au contraire, il entre avec joie dans cette joute verbale. Parler de la parole de Dieu, ça fait avancer. Ça ouvre des voies que personne ne pourrait voir comme ça. Lorsque nous prenons le temps à plusieurs générations de lire un texte biblique ensemble, c'est le regard de différents âges qui se croisent. Ça ouvre des champs de vision étonnants et enrichissants. Et j'espère de tout cœur que c'est ce que l'on pourra vivre à travers la nouvelle série d'études bibliques qu'on va commencer dès mardi. Ce texte de Luc 2, c'est un regard croisé sur les trajectoires de la vie humaine. Et c'est pour cela que j'aime autant ce texte. Nous apprenons de tous, à tous âges, d'un nourrisson, d'un adolescent, de vie de parents, même de célibataires qui portent toute leur vie une espérance. Et puis, évidemment, de toutes les personnes qui arrivent au crépuscule de leur vie. On attend ce salut et cette paix éternelle, on se la transmet les uns aux autres. Nous nous enrichissons mutuellement. Et j'espère que ce texte nous donnera le goût de toujours vouloir nous rencontrer au carrefour de nos vies. Amen.
Voilà, alors je vous propose simplement de passer un temps de prière ensemble. Si on peut de nouveau faire circuler le micro, merci. Et puis, qu'on puisse méditer sur ce que Céline nous a partagé. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour prier. Et j'ouvre ce temps de prière. Oh, Seigneur, moi j'aimerais te prier pour que tu nous donnes le discernement d'une vie, le discernement des petits commencements, comme Siméon l'a eu. Comment a-t-il distingué dans cet enfant-là en particulier le sauveur du monde? Oui, c'est. Il y a des années de méditation de ta parole, des années de prière, de consécration. Et je crois que c'est un exemple pour nous tous. Donne-nous d'en prendre exemple et de nous consacrer à toi, de nous couper aussi de ce monde dans le bon sens du terme pour nous occuper aussi des affaires de notre Père. Je crois que c'est vraiment quelque chose que tu nous demandes et qui est source de vie, de joie, même si, voilà, il y a aussi des fois les pays qui nous transpercent le cœur. Mais nous avons cette espérance en toi, que c'est toi qui as la victoire finale et que vraiment ça vaut la peine de vivre avec toi. Amen. Vous pouvez continuer à prier.
Ouais, Seigneur, tout comme Jean-Christophe, j'ai aussi envie de te prier pour que tu nous donnes du discernement et que tu nous donnes de voir ce que toi tu vois dans les personnes qui nous entourent. C'est vrai que c'est assez incroyable qu'ils aient vu en Jésus, en ce bébé, ce qu'ils allaient devenir. Alors bien sûr, il y avait les prophéties, il y avait toutes sortes de choses qui ont amené à ce point-là, mais bien souvent dans nos vies aussi, nous regardons les gens avec nos yeux humains, et nous ne voyons pas le potentiel que tu as mis dans ces personnes. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des gens qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent déjà. Tu as mis en chacun de nous un potentiel parfois inexploité ou encore pas pleinement visible. Et je prie que tu nous aides à voir ceux qui nous entourent avec ton regard, afin qu'on puisse les encourager, afin qu'on puisse nourrir cette terre dans laquelle ils sont, afin qu'ils puissent devenir ce que tu les appelles à être. Amen.
Seigneur Jésus, nous voulons aussi faire confiance à ton Esprit Saint. C'est vrai que la Bible en parle pour Siméon et Anne. Et Seigneur, nous voulons faire confiance à cet Esprit Saint, Seigneur, qui nous donne des opportunités. Alors, Seigneur Jésus, que nous soyons sensibles à ces opportunités, Seigneur, que nous puissions y répondre. Et je pense que c'est un sentiment de joie qu'ont dû ressentir Siméon et Anne, un sentiment de paix aussi. Alors Seigneur Jésus, merci d'être sensible à ces opportunités que tu nous donnes autour de nous, que ce soit à la maison, au travail, à l'école ou autre, mais que nous soyons sensibles. Et Seigneur, c'est aussi des sujets de joie où nous pouvons être reconnaissants de pouvoir parler de toi, de pouvoir transmettre cette foi, ce cheminement que tu fais avec nous avec des coupures prévues ou non prévues, Seigneur, c'est vrai qu'il nous transperce l'âme, mais Seigneur, un cheminement que tu es avec nous, Seigneur, et que nous pouvons partager autour de nous aussi. Alors bénis, Seigneur, et donne-nous cette confiance dans ton esprit, en toi. Amen.
Amen. Malheureusement, le streaming ne fonctionne pas dans le sens inverse, donc on n'a pas entendu les prières de ceux qui étaient en streaming. Mais voilà, peut-être un jour ça viendra. Nous allons passer aux annonces, et je crois que c'est Philippe qui va les faire.
Les potes ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il y a une sortie des potes au Zévo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les rejoindre à partir de 11h. C'est la raison pour laquelle jusque-là, nous n'avons pas entendu beaucoup de cris d'enfants. Ce sera pour les prochains dimanches. Mais vous pouvez penser aux potes, les enfants, leurs familles réunies aujourd'hui au Zévo. Et si vous le souhaitez, les rejoindre pour le pique-nique dès 11h, m'a-t-on dit. Vous n'êtes pas sans savoir que nos autorités fédérales ont pris certaines mesures qui nous impactent aussi, à savoir que depuis demain, pour tous les rassemblements de plus de 50 personnes, nous serons tenus de vérifier le certificat Covid. Merci pour votre collaboration. C'est pas tout simple à entendre, c'est pas tout simple à mettre en place. Ça questionne plein de choses, mais nous allons bien sûr respecter ce qui nous est demandé de faire. Si vous n'êtes pas encore vacciné, si vous ne souhaitez pas être vacciné, il y a toujours la possibilité de se faire tester si vous souhaitez participer au culte, ou alors à défaut, voilà, le streaming, c'est vraiment à défaut, mais la possibilité est maintenue. Mardi soir, à 20h ici même, premier atelier biblique d'une série de 4, c'est Célina qui assumera, animera ce premier atelier biblique, et puis voilà, l'un après l'autre, on assumera les 4 ateliers bibliques. Nous allons parler d'héritage, nous allons parler de transmission, nous allons parler de vivre ensemble, et puis comment on fait quand c'est compliqué de vivre ensemble. Des thèmes comme ceux-ci vont être abordés au fil des 4 ateliers bibliques tous les 15 jours à partir de ce mardi soir, 20h, ici même. Vendredi soir, nous avons notre colloque avec pour objet principal la question du renouvellement du conseil. Bienvenue à chacun, à chacune. Les membres ont été avertis et ils peuvent voter. Et pour cette rencontre, nous devrons aussi vérifier le certificat Covid. Donc voilà, mais bienvenue, et puis n'oubliez pas vos bulletins de vote, c'est une étape importante pour nous vendredi soir. Dimanche prochain, c'est Sylvain qui assurera la prédication, moi je serai au CEP à Prévesin. On peut penser à Philippe de la Fuente, le pasteur du CEP qui est arrêté pour plusieurs semaines en raison d'une vilaine hernie discale, et puis il a besoin d'un petit coup de main, et le conseil m'a dégagé ce dimanche pour leur donner un coup de main dimanche prochain. Les deux dimanches qui suivront, et puis je le dis pour ceux qui aiment bien lire la Bible pendant la semaine, j'espère que chez vous de temps en temps on entend les pages des Bibles tourner ou les pages défiler sur les tablettes. Les dimanches 26 et puis 3 octobre, 26 septembre, 3 octobre, en deux fois, nous réfléchirons à un mal qui peut nous toucher parfois, en tout cas qui a touché d'éminents serviteurs et servantes de Dieu. C'est celui de la dépression, du découragement profond, du burn-out. Et nous le ferons au travers du récit d'Élie, en Nombres 18 et 19. Et si vous avez envie de préparer un peu ces deux cultes, je vous encourage à lire, à relire, à mâcher Nombres 18 et 19. Ça nous accompagnera au moins pour deux dimanches. J'ai terminé avec les annonces, à moins qu'il y en ait à passer. Mercredi soir, groupe de jeunes, cet été. Et puis merci pour votre libéralité qui permet à l'église de fonctionner, de se développer. Vous pouvez l'exercer dans la petite boîte là-bas ou avec Twint ou par virement ou par versement. Merci beaucoup pour votre libéralité.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Je vais vous lire le psaume 100. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. Présentez-vous à lui avec des cris joyeux. Reconnaissez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec reconnaissance, dans la cour intérieure, exprimez-vous louange. Louez le Seigneur, bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon et son amour dure toujours. De génération en génération, il reste fidèle. Que le Seigneur vous accompagne dans votre semaine, qu'il déverse dans votre cœur sa joie et sa paix, et que vous puissiez à votre tour le répandre généreusement autour de vous. Très beau dimanche et très bonne semaine à chacun. Au revoir.